MDN. Bienvenue sur la moins pénible des radios.
C'est ça qui m'intéresse. Il y a des gens qui ont une musique a priori qui n'est pas du tout politique. Voilà, je sais pas, on va faire. Gens qui vont faire tourner des serviettes, mais finalement qui ont une démarche qui génère de la politique. Parce que, je sais pas, moi je pense que se dire tiens, j'ai envie de faire une musique pour que les gens, quand ils viennent, ils dansent, ils oublient tous leurs problèmes, ils se lâchent, c'est politique en fait.
Comme la tendresse et la révolte qui s'équilibrent dans Lundi méchant, second album de l'artiste Gaël Faye, selon sa volonté. Alors, évidemment, on a parlé politique avec l'auteur, compositeur, interprète franco-rwandais. On a parlé d'écriture, de rap et de la culture hip-hop qui se modèle en collectif. On a parlé du génocide rwandais et des dernières avancées, des absences de procès. On a parlé de l'enfance, d'une sagesse, du fond des âges, d'une nécessité à revenir à la scène. Autant de thématiques abordées juste derrière le théâtre de verdure de Musique à la rue, samedi midi, même s'il nous semblait plutôt être tôt le matin, à quelques heures du concert solaire et intense qu'a offert Gaël Faye au public luxois, accompagné sur scène par Louxor aux machines, Guillaume Poncé au cuivre et Samuel Kamanzi, chanteur et guitariste.
Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
J'aimerais bien savoir, avant de commencer, comment tu veux qu'on parle de toi? Comment tu parles de toi spontanément quand tu te présentes?
Gaël Faye, auteur de chansons, de romans, et puis maître de cérémonie, ambianceur, firevolteur de mots. Voilà.
C'est joli. Comment t'es arrivé à l'écriture?
Je suis arrivé à l'écriture par hasard. J'allais avoir 13 ans et j'ai commencé à écrire des poèmes parce que j'étais dans une situation dans un pays, le Burundi, où j'ai grandi, en guerre. Et j'ai commencé à écrire des poèmes parce que j'avais peur. J'avais peur du monde qui m'entourait, j'avais peur de la violence qu'il y avait dans la ville. Et donc j'écrivais des poèmes et ça me rassurait, ça me faisait du bien. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment pris goût à l'écriture, parce que j'ai tout de suite senti que ça avait des vertus. Et puis après, quand je suis arrivé en France, j'ai continué à écrire des poèmes parce que du coup je comprenais pas la société française. Je me posais plein de questions auxquelles j'avais pas de réponse, et quand j'écrivais, j'avais l'impression de faire un cheminement intellectuel, émotionnel, qui me permettait de un peu mieux cerner les choses. Et après, au lycée, j'ai rencontré la culture hip-hop. Et là, je me suis dit, waouh, ok, en fait, quand on écrit, on peut aussi faire autre chose que des poèmes. On peut faire des textes de rap et les mettre en musique. Et voilà, à partir de là, c'était une évidence pour moi que ça allait bouleverser ma vie. Que l'écriture, ça allait être une arme miraculeuse.
Ça allait être ma question d'après. Pourquoi tu t'es tournée vers le rap plus que vers de la chanson française plus classique? Parce que je t'ai entendu dire que ton père écoutait des grands chanteurs de chansons francophones. Donc c'est cette rencontre au lycée avec le rap qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est plutôt vers ce style-là que je veux me tourner. »
Mais parce qu'il n'y a pas de prérequis pour le rap. Pour faire de la chanson, il aurait fallu avoir une guitare, une batterie, un groupe de copains. Je sais pas, il aurait fallu s'organiser. J'avais pas tout ça. Alors que le rap, il suffisait d'avoir une face B, une instrumentale, et puis on écrivait, et puis c'était bon. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que c'est populaire, le rap. C'est qu'il y a besoin de rien. Enfin, le hip-hop... pour graffer, il n'y a besoin de rien, il faut juste aller voler un feutre. Pour danser, il n'y a besoin de rien, il faut juste un sol pas trop sale et puis un poste. Et puis pour chanter, il ne faut rien du tout. Il faut avoir quelques mots, même parfois il n'y a pas besoin de les écrire, et une instrumentale. Alors avant, ça se trouvait sur les faces B des vinyles. Moi, je rappais même par-dessus. Sur des cassettes par-dessus les autres rappeurs. J'ai beaucoup rappé par-dessus IAM par exemple, ou des freestyles de génération, et c'est pour ça que c'est populaire, c'est en accès libre.
La facilité, ouais, qui a fait quelque
chose. Ouais, c'est ça, c'est fait pour ceux qui n'ont pas. Et alors que tout le reste, tout ce... Mais par exemple, j'avais eu envie de... J'aimais bien le jazz, j'avais envie de faire du saxo, mais je m'étais renseigné, ça coûtait très cher d'avoir un saxophone. Après, les cours, ça coûtait cher. Le conservatoire, ça coûtait cher. C'était une organisation, c'était compliqué. Et puis, ça créait pas l'émulation. Parce qu'on pouvait aller au conservatoire et être tout seul comme à l'école. Alors que dans le mouvement hip-hop que j'ai fréquenté, c'était pas du tout ça, c'était l'émulation. On était avant tout des gens qui avaient une soif d'absolu, de reconnaissance. On voulait exister, on voulait crier à la face du monde qu'on existait. Et puis surtout, on pouvait venir tel qu'on était. C'était pas comme à l'école ou comme au conservatoire ou... où en gros il fallait respecter des codes, des normes. Là, bien sûr il y a des codes, hein. Je dis pas, il y a des codes dans le rap, mais moi je pouvais venir avec mes petits mots en kirundi, en swahili, raconter mon histoire, et ça choquait personne. Je pense que ça aurait été plus difficile en chanson française par exemple. Maintenant la chanson française elle s'ouvre beaucoup plus, mais avant je la trouvais très étriquée dans ses thématiques, dans... Enfin, celle qui passait à la radio, hein. Je ne veux pas généraliser. Il y a toujours plein de marches partout, mais moi, celle que j'entendais, je la trouvais trop générale. Je ne ressentais pas les gens derrière. Alors que le rap, je sentais les gens derrière, leur vécu, leur histoire, leur urgence.
Aujourd'hui, en rap, ta référence, ce serait quoi ?
Ah, ben plein. On a plein. Je sais pas, là dernièrement j'ai écouté Giorgio, que j'adore depuis des années. J'adore Alpha One. J'adore. Youssoupha, là, j'étais sur son album, il m'a invité. Je sais pas, Niska, Nino, il y en a tellement. Oxmo.
Rap français, du coup, surtout.
Ah non, c'est parce que tu m'as posé la question sur, je crois. Ah, j'ai eu entendu rap français. Ah non, non, sinon, rap américain. Ben là, là, en ce moment, cet été, je saigne l'album de Tyler, The Creator. Voilà. Ces dernières années, là, j'aurais jamais pu faire mon album Lundi Méchant si j'avais pas eu l'impulsion des deux derniers albums de Kendrick Lamar, quoi, qui vont simplement brûler la tête. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, on est dans les années 2020. Mais on peut encore sortir des vrais albums comme à l'ancienne, c'est-à-dire avec une histoire, avec des intros, des outros. Ça m'a vachement décomplexé, parce que comme on est dans une époque du streaming roi, où finalement on a même des discours de plein de rappeurs qui disent ça sert à plus rien les albums, autant sortir des singles. On fait des carrières avec des singles, et moi c'est vrai que j'ai encore du mal à concevoir ce que ça peut faire que faire de la musique sans faire des albums. Toujours l'impression qu'un album, c'est ok, c'est un moment où on se pose et on dit où j'en suis, je suis le point de maintenant où j'en suis, donc ça va être une photographie de l'instant. C'est pas la même chose un single, parce que du coup ça rend tout un peu évanescent. Et moi j'aime bien l'idée comme ça des albums, et Kendrick, voilà, il a fait quelque chose d'ultra moderne, très actuel, mais avec des codes vraiment à l'ancienne. Et ça, c'est voilà, pour quelqu'un comme moi qui a quand même ses origines, sa culture s'est faite à une époque où on achetait encore des CD, ça m'a vachement aidé, quoi, d'entendre ce type d'album. Mais je pense que même un Tyler, The Creator, c'est des gens qui ont écouté des MF Doom, qui sont des enfants de Stones Throw Records, donc c'est quand même des gens qui ont la culture du vinyle, de l'album. Et je crois que ça va perdurer, enfin j'espère, en tout cas pour les gens qui tournent, parce qu'aujourd'hui il y a plein de rappeurs qui sortent des albums et qui font pas vraiment des tournées, enfin qui vont faire des... Qui vont en boîte de nuit ou qui vont faire un gros stade, mais qui font pas des tournées comme d'autres font, comme moi ou je sais pas, Giorgio. Mais quand on fait des tournées, c'est vrai qu'un album, ça permet ça permet, avec son équipe de musiciens, à chaque fois refaire un travail de création, refaire un travail d'arrangement. Et donc on a cette impression d'évoluer. Si on sortait que des singles, ça serait compliqué de revoir le répertoire en entier. Alors que moi, là, le fait d'avoir fait un nouvel album, je revisite les anciens morceaux de mon répertoire avec un nouveau regard, donc je fais des arrangements pour homogénéiser le tout. Et donc, cette impression d'évoluer, c'est important.
Où sont les couleurs vives, les rues des couloirs vides, la ville est verticale, je me casse les cervicales dans mon cahier à spirale. J'écris mal inspiré, je veux fuir la mitraille pour les plages de Nocibé. Je regarde la skyline, les reflets dans le fleuve, la prochaine fois le feu, moi j'ai grandi dans le sbeul. Toujours en moi la rage comme un mec inspige, depuis de l'eau a coulé face au Queen's Bridge. Les poings dans les poches, la tête sous la capuche, j'ai le cerveau qui bûche, mes rimes dans la sacoche. Cette ville est comme un fruit, un défi fou, un film. Mais j'ai comme l'ego qui fuit par ses bouches, des goûts qui fument. J'écoute en boucle mes bootlegs, vas-y copain, file la bouteille. J'écoute en boucle mes bootlegs, et dans la nuit flotte un air de Wu-Tang. Et dans cette ville de NYC, assis à l'arrière d'un taxi, tous ces gratte-ciels, forêts de cimes, toutes ces lumières à l'infini surgissent d'abîmes menaçants comme des milliards de galaxies. Un baron minuit me conduit vers cette nuit qui s'épaissit, le froid des chambres d'autopsie, le confort des banlieues paisibles. Un homeless poussant son caddie, les allées de Little Italy, un camp rosé par les képis, un sommeil cousin du décès. Cette ville sans répit tout à coup surgit de ma mine.
NYC, comprendre New York City, pépite extraite de l'album Lundi Méchant. Reprenons le fil avec Gaël Faye, virevolteur de mots, ambianceur, maître de cérémonie, auteur de romans et de chansons.
Est-ce que tes différentes formes d'écriture, elles se nourrissent les unes les autres? Est-ce qu'elles s'apportent des choses ou est-ce que c'est vraiment des choses que tu fais de manière très cloisonnée, très séparée?
Ah non, je peux pas ça. Non, non, tout se répond, tout se nourrit, tout s'interpénètre. Tout comme il faut, en tant qu'artiste, je pense qu'il faut que la vie soit un champ d'expérimentation, quoi. C'est transformer toutes les expériences, même les plus infimes, celles qui peuvent paraître les moins spectaculaires, en possibilités d'art. Et donc ouais, non, l'écriture pour moi il n'y a pas de... C'est pour ça que je disais auteur au début, parce que j'aime bien le côté auteur. Je trouve qu'il y a cette idée que on va créer, mais après il faut qu'on trouve un support ou une forme. Donc auteur de chansons, auteur de romans, auteur de pièces de théâtre, auteur de scénarios de films, c'est ça qui m'intéresse. La seule chose que j'arrêterai jamais de faire, c'est écrire. Peut-être que j'arrêterai la musique, peut-être que j'arrêterai, je sais pas, les romans, peut-être que j'arrêterai. Mais je n'arrêterai jamais d'écrire. Donc je ne sais pas sous quelle forme. La poésie, en tout cas, c'est mon art premier. J'arrêterai jamais la poésie. Mais après, toutes les autres formes, je ne sais pas. Peut-être que j'arrêterai, peut-être qu'un jour je me dirai, je ne sais pas. J'ai plus envie d'écrire un roman parce qu'il faut passer par toutes ces étapes, ce processus, je n'ai pas envie. Ou un album, ou. Enfin, Là, je parle pas de maintenant, parce que là, au contraire, j'ai un feu qui me brûle, mais on sait jamais. Mais par contre, l'écriture, c'est impossible. C'est une hygiène, quoi. C'est comme me brosser les dents. J'arrêterai pas de me brosser les dents, quoi. Enfin, à moins que j'ai plus de dents. Je sais pas.
C'est peut-être aussi parce que c'est arrivé, du coup, un peu comme un remède, l'écriture.
Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, moi je suis perdu, hein. Franchement, tu m'enlèves l'écriture, je suis rien à mes yeux, vraiment. Enfin, heureusement, j'ai quand même des enfants, et donc j'ai une amoureuse, donc je suis un peu ça. Mais sinon, à part ça, je sais pas, je suis paumé, quoi. J'ai pas ma place. Je disais dans un de mes textes, j'ai dit... Ah zut, le gars qui veut citer ses textes et qui oublie. C'est parce qu'il est 6h du matin. Enfin, heure locale, personnelle. Dis-moi pourquoi je suis paumé entre le vieux sage fainéant et l'ignare diplômé. Et c'est ça, moi je suis. J'ai essayé les études, je me suis pas retrouvé dedans. J'ai essayé des boulots, j'ai travaillé dans d'autres domaines, dans la finance. J'avais l'impression d'être personne, enfin, je sais pas, d'être un numéro interchangeable. Je me suis toujours senti un peu alien, à l'écart, à l'école, dans les groupes, dans les booms, dans les. Et je sais pas, quand j'ai écrit. D'un coup je me suis dit ah ouais ok c'est ouais je sais pas c'était ça bon là je suis en train de me auto-psychanalyser
mais... c'est ça de parler de toi ça.
Ouais.
Et en ligne de fond de tes textes il y a ton histoire personnelle ouais. Dans Petit Pays ton roman tu parles de cette histoire terrible du Rwanda et tu le racontes à travers des yeux d'enfant est-ce que dans ton écriture quotidienne, est-ce que ces yeux d'enfant, ils sont encore avec toi ? Est-ce que tu as toujours cette part d'enfance qui t'accompagne dans ton écriture ?
Bah ouais, l'enfant qui est en moi, c'est mon père, quoi. C'est lui qui m'impressionne. Franchement, les enfants, ils sont impressionnants. En vrai, c'est... Quand on est en face d'un enfant... Enfin, moi, personnellement, en face d'un enfant, j'ai toujours... Je me sens toujours très ouais, très petit, très très impressionné parce que il y a une sagesse qui est presque du fond des âges quoi, une sagesse immémoriale comme ça parce que tout est clair dans l'esprit d'un enfant et les rêves sont clairs. Les oui et les non sont clairs, les envies sont claires. Le problème, c'est après on est ado, on est adulte et puis on commence à réfléchir et puis à voir son intérêt, c'est à louvoyer entre ce qu'on ressent, ce qu'on projette de soi, les masques de sociabilité, tout ça quoi. Et puis on commence à être perdu dans le jeu social. Et dans la manipulation de soi avec des autres et tout ça. Et donc, ouais, cet enfant-là, moi, il m'impressionne parce que ben, il avait des rêves tellement grands. Et donc, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est sûr que quand t'es un artiste, t'essayes de reproduire le geste de l'enfant que t'as été. T'as juste envie d'être un peu digne de ces rêves-là, de ce moment où tout était gratuit et tout était extrêmement important sans l'être. C'est-à-dire jouer, c'était d'une importance capitale. Moi, je vois, en fait, je m'en suis rendu compte avec mes enfants, ma petite fille, là, quand elle dit « Ouais, papa, on va jouer ben », moi, au bout de 5 minutes, je m'ennuie. Alors qu'elle est en train de jouer, il y a vraiment des monstres qui nous courent après, il se passe vraiment une aventure extraordinaire et que moi je ne vois pas mais qui est là autour d'elle, qui peut prendre toute l'après-midi, toute son énergie, toute sa capacité de réflexion. Mais moi je suis impressionné par ça, je trouve ça fabuleux. Et c'est comme à l'adolescence quand on commence à aimer de la musique ou un auteur ou un... Mais c'est fou, quoi, de ce feu-là qui me brûle. Moi, qui me brûlait quand j'étais ado, quoi, avec la musique. Je pouvais écouter... je vois, ma plus grande fille, elle a 11 ans. Et elle peut écouter la même chanson en boucle. En ce moment, je sais pas, elle écoute Nirvana, mais elle écoute en boucle pendant des heures. Et elle... Je sais pas, c'est complètement maladif. Mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Et elle le fait pas parce que. Elle le fait parce que ça l'habite. Et on a envie de ça en fait quand on est artiste. On a envie d'être totalement habité par cet état d'esprit de l'enfance. Sauf que quand on le fait en étant adulte, ben on dit qu'on est fou. Voilà. Les artistes, c'est des fous, c'est des zinzins. Mais non, c'est pas des fous, c'est simplement des enfants.
Du coup, c'est pas trop dur d'être un papa en tournée ? Tu les vois, tes enfants?
Ben ouais. Ben la grande, elle était avec moi sur les dernières dates. Et la petite, elle me rejoint ce soir, ouais. Ouais. Donc c'est cool.
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. Seuls et vaincus.
Seuls et vaincus, un texte de Christiane Taubira, chanté par Gaël Faye et accompagné par Mélissa Lavaux sur ce magnifique morceau. Gaël Faye est franco-rwandais, vous le savez déjà certainement, fils d'un père français et d'une mère rwandaise tutsi. Il naît et grandit à Bujumbura, au Burundi, qu'il fuira en 1995 à la suite du déclenchement de la guerre civile au Burundi et du génocide des Tutsis au Rwanda.
Cette histoire du Rwanda, il y a eu encore de nouvelles révélations récemment. D'ailleurs, ça, les dernières...
C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il y a eu le rapport du CLER, donc, qui est une commission d'historiens, qui a été mandaté par le président Emmanuel Macron pour faire parler les archives françaises sur la question de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron a lancé cette commission donc en 2018, nous qui travaillons sur la question depuis des années, on s'est dit « Oh, est-ce que c'est pas un peu télécommandé? Est-ce que ça va être à la hauteur de ce qui s'est vraiment passé ?» Et en fait, la commission qui est indépendante, faut le rappeler, elle a fait un travail extraordinaire. Elle a vraiment mis en perspective non seulement les responsabilités, mais surtout les problèmes des institutions de la Ve République, où en fait un groupe de personnes, là en l'occurrence il y avait entre 10 et 20 personnes, sont capables de mener au nom du peuple français, sans que le citoyen français soit au courant, une guerre à l'autre bout du monde, un soutien de régime génocidaire. Mais ça peut poser la question sur, par exemple, des situations d'urgence comme on a vécu sur la crise sanitaire, c'est la concentration du pouvoir. Et tous les Français devraient lire le rapport du Clerc, même si ça parle du Rwanda, ça parle en fait de la France et des problèmes institutionnels. Après, en France, il y avait un déni très grand, surtout de la part du Parti Socialiste, parce que Mitterrand, c'est une figure tutélaire, indéboulonnable pour les socialistes. Donc c'était pas possible de dire que Mitterrand avait soutenu un régime génocidaire jusqu'au bout, l'avait armé, que l'armée française avait entraîné. Donc il y avait un déni, et les médias, forcément, comme c'est un génocide, on se dit ben non, pas nous, la France, c'est pas possible. Donc il y avait aussi ce déni-là, il était aussi diffusé un peu médiatiquement, pas chez tout le monde, mais quand même. Donc il fallait toujours un peu s'expliquer. Et là, le fait qu'il y ait le rapport du Clerc qui a officialisé cette parole, et surtout le déplacement de Macron, qui est allé au Rwanda et qui a reconnu dans son discours la responsabilité de la France, ça a carrément institutionnalisé, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on passe plus du tout pour un fou quand on dit que la France a des responsabilités dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Après, c'est un début, pour moi c'est une avancée, mais il y a encore beaucoup de choses que l'on n'a pas éclairci. Il y a des procès qui pour moi doivent découler de ces révélations, ou enfin c'est pas vraiment des révélations pour ceux qui connaissaient le dossier. Moi j'ai rien appris avec le rapport du Clerc, mais disons en tout cas le fait que ce soit officialisé, voilà, il faut qu'il y ait des procès d'hommes politiques français, de soldats français, et puis moi de mon côté avec d'autres amis, avec le collectif auquel j'appartiens, le CPCR, le collectif des partis civils pour le Rwanda, on continue la traque des génocidaires rwandais qui vivent en France. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, mais j'espère aussi que que tout ce qui s'est passé, toutes ces avancées, ça va permettre qu'on nous donne plus de moyens, et qu'on, parce qu'on a déposé 30 plaintes depuis le début des années 2000 et on n'a eu que 3 procès. Et maintenant, il y a plein de génocidaires qui meurent de leur belle mort parce qu'ils sont devenus trop vieux, etc. Et ça, c'est un problème, parce que s'ils meurent de leur belle mort, c'est qu'ils meurent innocents. Et donc la justice, on a besoin de la justice pour se reconstruire, pour que les victimes, elles aient pas l'impression d'être des victimes à jamais, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une très belle avancée qu'il y a eu, mais ce n'est qu'une étape.
Et donc c'est des causes que tu mets en lumière aussi dans tes textes. Il y a le Rwanda, il y a eu Christiane Taubira, il y a SOS Méditerranée, Black Lives Matter. Est-ce que ça veut dire que pour toi, écrire, c'est politique ?
Écrire, c'est politique. Je sais pas, parce que pour moi, écrire, c'est la liberté, c'est être libre. Enfin, créer, c'est être libre. Donc, quelqu'un qui a pas envie d'être politique, il faut pas qu'il le soit. En fait, moi, je me méfie des postures. Je pense que la pire des choses pour un artiste, c'est des postures, parce que bon, je viens aussi comme ça de le rap français. À un moment donné, on s'était englué dans ce truc-là du rap conscient, où d'un coup, si tu prenais la parole, c'est toujours que pour dénoncer, que pour être dans le combat. Alors que ce qui est politique, c'est la démarche. C'est pas forcément d'écrire, c'est la démarche. Je pense que, par contre, prendre la parole publiquement, c'est politique. Monter sur une scène de concert, c'est politique. Ça, je veux dire, tu parles devant 2000 personnes, 100 personnes, 50 personnes, c'est politique. Donc c'est politique. Si tu choisis de rien dire, c'est un choix politique. si tu choisis de dire quelque chose par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à toi, c'est aussi un choix politique dans son sens premier, quoi, de parler de la cité, quoi, de la parler de la société. Donc ouais, moi je pense que l'échange avec les autres, c'est politique. Après, écrire, j'en sais rien, parce qu'on peut écrire pour soi, on n'est pas forcément obligé d'écrire pour le monde. Ouais, c'est moi là qui fais mes balances. ouais, c'est moi. Pas mal. Donc ouais, c'est plus ça. Moi en fait, ce que j'essaye de voir, c'est la démarche d'un artiste. C'est pas la chanson en particulier. J'aime pas juger les gens sur une chanson, sur un album. Mais c'est qu'est-ce que tu fais de ta démarche? Par exemple, t'as un succès, qu'est-ce que t'en fais de ton succès? À quoi ça va te servir? Est-ce que c'est bon pour t'enrichir, continuer à briller? Est-ce que tu en fais quelque chose pour creuser un sillon, pour mettre en lumière quelque chose? C'est ça qui m'intéresse. Il y a des gens qui ont une musique a priori qui n'est pas du tout politique. Voilà, je sais pas, on va faire... gens qui vont faire tourner des serviettes, mais finalement qui ont une démarche qui génère de la politique, parce que je pense que se dire tiens, j'ai envie de faire une musique pour que les gens, quand ils viennent, ils dansent, ils oublient tous leurs problèmes, ils se lâchent, c'est politique en fait, parce que c'est une manière de libérer aussi le corps du poids de l'esprit. Donc c'est politique, voilà. Faire danser les gens en ce moment, faire en sorte qu'ils soient tous ensemble, il y a rien de plus politique là, on le voit bien. Il y a carrément débat sur est-ce qu'on fait des concerts ou est-ce qu'on n'en fait pas. Des gens qui nous disent mais c'est n'importe quoi de faire des concerts, vous acceptez là tout ce qu'on nous demande pour venir à des concerts. Moi, mon point de vue, c'est qu'on en a besoin là, et que on force personne. Force pas les gens à se vacciner ou à se mettre des tests dans le nez pour venir au concert. Mais ceux qui le font, qui viennent, en fait, ils viennent chercher quelque chose qu'ils n'ont pas par ailleurs. Et là, depuis quelques semaines que je tourne, je me suis rendu compte que il y a des gens qui, pour eux, les concerts, ça leur redonne une énergie qu'ils avaient perdue ces derniers mois. Et moi, personnellement, ça me redonne aussi une énergie que j'avais perdue. J'étais déprimé, quoi. J'étais déprimé. Et là, remonter sur scène, revoir les gens, me dire, mais ouais, mais on existe, en fait. On n'est pas tout seul derrière des écrans, on est ensemble. Ça me redonne une énergie. Et donc voilà, de toute façon la liberté, c'est jusqu'où nos chaînes nous permettent d'aller, hein. On n'est jamais libre dans l'absolu, je veux dire, c'est philosophique, mais moi je n'y crois pas du tout à la liberté absolue, ça n'existe pas dans les sociétés, mais là on peut en débattre très longtemps, voilà.
Le retour à la scène du coup a été carrément cool, parce que Lundi Méchant, il est un peu sorti entre deux eaux, on savait pas trop, ouais, à quelle sauce on allait être mangé. Retrouver le public, c'était cool.
Non, mais retrouver le public, c'est retrouver la vie, tout simplement. C'est ce qui nous avait manqué. Là, on a vécu vraiment une période où on naviguait à vue, et puis tu vois, on nous reportait tout le temps les concerts. À un moment donné, quand tu vois tout le monde dépérir autour de toi, mentalement, psychologiquement, même moi, des gens de mon équipe qui se sont reconvertis, ça mine le moral. Et puis, sortir un album dans ces moments-là aussi, moi j'avais l'impression j'étais content, mais j'avais l'impression de ne pas connaître l'album, quoi, d'avoir accouché d'un enfant que je ne voyais pas. Et donc, c'est. Ouais, là, c'est retourner à la vie, tout simplement. Après, moi j'ai conscience qu'on est rentré dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Et comme dans toutes ces périodes-là, il faut s'adapter. Et donc, il faut arbitrer au jour le jour. Moi, j'essaye de pas avoir
de rester flexible, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de voir. Et puis, pour l'instant, ça reste gérable pour moi. C'est-à-dire, ce qu'on demande aux gens, je ne trouve pas ça encore scandaleux. Contrairement à d'autres artistes qui sont vraiment et que je respecte, hein. Moi je suis pas là pour dire moi j'ai raison, les autres ont pas raison. Je respecte les arguments des uns et des autres, mais pour moi là on est dans une période où il faut que chacun fasse comment il ressent les choses. Moi je ressens qu'il faut faire des concerts maintenant. Il faut encourager les festivals, il faut donner du plaisir aux gens, il faut nous qu'on surnage parce que c'est nos métiers, donc qu'on continue à faire. Moi, sur la route, j'ai 15 personnes avec moi, donc à un moment donné, il faut que les gens continuent de vivre, etc. Et je ne veux pas avoir des postures de principe qui empêcheraient toute cette vie-là, qui se passe, toutes ces expériences-là, parce que de toute façon, le monde est en mutation. Et donc, il faut arbitrer, mais je reste très très attentif à tout ce qui va se passer et à voir comment on va nous respecter ou pas. Parce que c'est vrai que pendant ces périodes-là, la période des confinements et tout ça, la culture, on n'a pas été respecté, mais vraiment pas du tout. Et c'était carrément scandaleux. Donc je pense que les gens ont été très gentils, les festivals ont été très gentils, les artistes ont été très gentils, on a joué le jeu, nous, avant de monter dans le tourbus, on se met des tests PCR dans le nez à chaque fois, et je veux dire, c'est pas agréable, on n'a pas envie de faire ça, mais on le fait, tout le monde joue le jeu, j'espère qu'il va y avoir tout simplement un respect des uns et des autres, et de tous les métiers, de toutes les activités, sachant que la nôtre, elle est vraiment essentielle. Il n'y a qu'à voir les gens en concert. Ils repartent des concerts avec une énergie qui les booste pendant des semaines. Donc ouais, c'est très important que ça puisse exister. C'est les basses, les subs, et ça fait du bruit pour toi.
Merci, Gaël.
Merci.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon?
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi.
Semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventéré et chauffer, chauffer, va t'entendre. Les pulsations ont des tympans, hein. Chanter, chanter, c'est qu'encore. Écoutez, écoutez lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Lundi méchant, extrait de l'album éponyme, Ainsi nommé d'après les soirées organisées tous les lundis soirs dans la boîte de nuit le 5 sur 5 dans le quartier populaire et cosmopolite de Bouïsa à Bujumbura, un album dont il faut absolument, très chers auditeurs, découvrir les 14 morceaux.
Faites vos valises, restez sur MDM.